Merci David de nous avoir conduits dans ce temps de louange, d'adoration. On va poursuivre ce matin dans notre série sur Marc. Mais avant, j'aimerais nous poser, nous questionner. Dans l'idéal, que faudrait-il pour qu'une personne non-croyante se tourne vers Dieu? Pour qu'une personne découvre qu'il existe vraiment. Que faudrait-il pour qu'une personne réalise qui est Jésus? Souvent on pense, et peut-être qu'on l'a même entendu, si on a eu l'occasion de parler de Dieu, de Jésus à quelqu'un, on se dit que si la personne pouvait voir quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, eh bien il croirait. Je ne sais pas si Dieu pouvait, par exemple, demain matin avoir déplacé les trois becs de 2 mètres vers la droite, je saurais que Dieu existe. Alors c'est peut-être extrême. Mais on a peut-être déjà tous entendu quelque chose de « si Dieu guérit cette personne de cette maladie, alors je croirais. Si Dieu faisait ceci, si Dieu faisait cela, alors je croirais. » La question sous-jacente à cela, c'est finalement, est-ce que le spectaculaire, est-ce que le miraculeux a la capacité en soi de susciter la foi? Ce matin, au travers du passage qu'on va lire dans l'évangile de Marc, on va se rendre compte ensemble, au travers de ce qui est dit dans la parole de Dieu, que tous les êtres humains sont aveugles spirituellement. On a un handicap qui nous empêche de voir qui est Jésus. Et on verra aussi combien il nous faut supplier Jésus de nous ouvrir les yeux. Alors on va cheminer dans ce texte en 3 étapes ce matin. Première étape, on verra le test optique. Deuxième étape, on verra le diagnostic. Et puis la 3e étape, on verra le remède unique. Le test optique, le diagnostic. Et le remède unique. On va avancer dans le texte petit à petit pour bien être en phase avec ce qu'on veut y découvrir ensemble. Donc on va lire Marc chapitre 8, les versets 1 à 26. Et on va commencer donc avec les versets 1 à 10. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus. Et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?»« Combien avez-vous de pain ?» leur demanda-t-il. « 7 » répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4 000 hommes. Ensuite Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans le bateau avec ses disciples. Et se rendit dans la région de Dalmanuta. Je m'arrête ici pour l'instant. Est-ce que vous avez déjà eu à passer un test optique, que ce soit chez l'opticien, que ce soit pour la médecine du travail? Je pense que très certainement, vous vous êtes retrouvé dans cette situation au fond d'une pièce, à devoir lire les lettres qui se trouvent ici. Et vous comprendrez que si vous n'arrivez pas à lire la lettre E, qui est la lettre la plus grosse, la plus évidente, alors il y a du souci à se faire. C'est pas grave, ça arrive. On peut avoir des soucis de vue. Mais en tout cas, si on ne voit pas cette lettre, c'est qu'on a un sacré souci de vision. On est ici dans le miracle des pains. Et cela ne vous aura peut-être pas échappé que c'est la deuxième fois que Jésus fait ce miracle. On a rencontré ce miracle deux chapitres plus loin, au chapitre 6. Cela veut dire que c'est un miracle important, un des seuls d'ailleurs qui est répété deux fois avec beaucoup de précision. Alors il y a des similitudes entre ces deux miracles, beaucoup de similitudes, j'en ai relevé quelques-unes là sur la slide, et peut-être les plus importantes, mais il y en a d'autres. Vous pourrez vous amuser à comparer les deux passages et faire le jeu des sept erreurs. Il y a aussi quelques différences. On voit qu'en Marc 6, par exemple, Jésus est en territoire juif, et puis en Marc 8, il fait ce miracle en territoire païen. Une fois, il y a 5000 personnes, que les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et une autre fois, il y a 4000 personnes, tout le monde compris. Donc il y a moins de monde, il n'y a pas le même nombre de pains, il ne reste pas le même nombre de corbeilles à la fin. Voilà, il y a quelques différences, très certainement pour nous signaler que ce miracle est bien un nouveau miracle et ce n'est pas le même. Alors, que doit-on voir dans ce miracle qui est répété à deux reprises ? Qui semble être un petit peu comme cette lettre E sur le test de l'opticien. Jésus veut très certainement qu'on ne passe pas à côté de quelque chose qui est important, qui est essentiel à comprendre et à saisir à son sujet. On entend parfois, quand on entend des enseignements par rapport à ces miracles, ce miracle de multiplication, des choses comme apportons à Jésus nos 5 pains, nos 2 poissons, et puis Jésus va les transformer et multiplier. Amenons le peu que l'on a et Dieu va multiplier ça. Est-ce que c'est faux ? Non, ce n'est pas faux. On croit cette vérité ailleurs dans la parole. Mais est-ce que c'est là ce que Dieu veut nous montrer, que Jésus veut nous apprendre au travers de ces deux miracles ? Je ne pense pas, il ne me semble pas. En fait, j'aimerais nous poser cette question. Où est-ce qu'on voit une foule dans un lieu désert, une foule qui a faim, qui est regroupée par groupes de 50 et de 100, où un autre homme la compare à des brebis sans berger. Où est-ce qu'on voit une foule qui est affamée, qui va voir Dieu pourvoir à sa faim par du pain donné en abondance, de manière à ce que la foule soit rassasiée. Je l'ai entendu, c'est en Exode. On a une référence ici avec ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël dans le désert lors de l'Exode. Et effectivement, à un moment donné, Moïse comparera cette foule à des brebis sans berger. En fait, ce que Jésus veut établir ici, c'est un parallèle avec ce peuple d'Israël. et le miracle de cette manne qui est envoyée du ciel. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu avait promis qu'un jour, il y aurait un nouveau berger. Et il avait dit « Je viendrai moi-même pour être le berger de mon peuple, pour prendre soin de lui. » Alors, je nous répète la question, que doit-on voir au travers de ce miracle répété deux fois? Que nous faut-il comprendre? Quel est le test optique à ne pas rater ici? Qui est Jésus, cet homme profondément ému, pris aux tripes devant les besoins de cette foule, de ces foules, capable de les rassasier et de les satisfaire pleinement? Il est Dieu. Jésus est Dieu venu en personne pour être le bon berger, pour prendre soin de son peuple. Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour le salut de son peuple. Il est le bon berger des Juifs, Marc 6. Il est le bon berger des non-Juifs, des païens, Marc chapitre 8. Alors, face à ce test optique, quel est le diagnostic? On va poursuivre nos lectures dans les versets 11 à 21, mais d'abord dans les versets 11 à 13. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Il lui tendait un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans le bateau et partit pour l'autre rive. On a ici des pharisiens, c'est-à-dire des responsables religieux, qui viennent près de Jésus et qui lui réclament un signe. En fait, ce qu'il faut comprendre par cette demande, les pharisiens disent à Jésus, en fait, on voudrait une preuve incontournable que tu es bien quelqu'un envoyé par Dieu. C'est ça qu'il y a là, dans la demande des pharisiens. On veut une preuve que c'est bel et bien Dieu qui t'envoie. Alors, on peut, dans la compréhension du texte, saisir que ces pharisiens se trouvaient de l'autre côté de la rive, donc n'ont très certainement pas assisté au miracle qui vient de se produire de l'autre côté du lac, en territoire païen, parce que Jésus et ses disciples sont revenus en territoire juif. Mais c'est difficile quand même d'imaginer que depuis que Jésus exerce son ministère, il n'ait pas entendu, il n'ait pas vu d'autres miracles que Jésus a fait jusqu'ici là, et très certainement entendu de ce fameux premier miracle de la multiplication des pains pour les 5000 personnes. Un deuxième élément par rapport à ces pharisiens, en fait on voit que la manière dont ils approchent Jésus est révélatrice de ce qui se passe dans leur cœur. En fait, les termes utilisés dans les textes originaux évoquent quelque chose de l'ordre d'une expédition militaire à l'encontre de Jésus pour le contester, pour jeter le discrédit sur Jésus, pour porter en fait atteinte à sa réputation. En fait, c'est le reflet de personnes qui ne veulent pas croire que Jésus est le Messie, qu'il est envoyé de Dieu. La réaction de Jésus, un profond désespoir devant leur incrédulité et leur aveuglement. Jésus dit « Les gens de notre temps demandent des signes. » Quand il dit « Les gens de notre temps », Jésus est en train de faire référence aux paroles de Moïse dans l'Ancien Testament à propos de l'attitude incrédule du peuple d'Israël qui, dans le désert, malgré tous les miracles dont ils avaient été témoins à plusieurs reprises, mettaient encore Dieu au défi d'en faire d'autres. Diagnostic des pharisiens. Les pharisiens sont aveugles spirituellement. Ils ne veulent pas croire, et ce n'est certainement pas un signe supplémentaire, un miracle supplémentaire de Jésus qui aurait changé la donne. Quelqu'un a dit « la soif de miracle est un signe des adversaires de Jésus et non de ses disciples ». Alors, ok, pour ce qui est de l'aveuglement des pharisiens, mais on va voir quelque chose de plus surprenant encore. Que se passe-t-il pour les disciples qui côtoient Jésus depuis un certain temps maintenant? Poursuivons la lecture. Les disciples avaient oublié d'importer du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans le bateau. Or, Jésus leur recommanda, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux, « Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain? Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas. J'ai beau lire et relire cette section, je la trouve vraiment surprenante et même quelque peu dérangeante. Comment est-ce possible de ne pas voir à ce point? On a des disciples qui interprètent la mise en garde de Jésus contre le levain des pharisiens et d'Hérode comme le reproche d'avoir oublié d'acheter des baguettes de pain. Cette réaction des disciples, elle est doublement surprenante, préoccupante et on peut même le dire quelque part dramatique sur le fond. Parce que si le pain, la baguette, est le véritable problème, on se dit qu'ils devraient se rappeler à minima du miracle auquel ils viennent juste d'assister, et ceci pour la seconde fois. L'autre chose, c'est que, en fait, on se rend compte que, là encore, ils ne comprennent pas finalement le sens qu'il y a devant l'image du levain que Jésus emploie. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire en parlant de ce levain de pharisiens, du levain d'Hérode? En fait, il est en train de leur dire attention à l'enseignement. Attention à l'influence négative que les pharisiens et que Hérode peuvent exercer sur vous. Mais qui était-il? Faut-il se poser cette question. Qui était Hérode? Qui étaient ces pharisiens? Hérode était le gouverneur de Galilée et les pharisiens étaient des responsables religieux. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu va se plaindre, faire savoir par le biais de ses prophètes à son peuple qu'il y a un problème avec ceux qui sont ses bergers. Et il va les qualifier de mauvais bergers. Ce sont toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités sur le peuple de Dieu, les rois, les responsables religieux, les prêtres, qui font n'importe quoi. Pourquoi Jésus parle de ce levain ? Parce que les différents responsables religieux qui, dans l'Ancien Testament, égaraient le peuple de Dieu, le conduisaient dans l'idolâtrie, dans la désobéissance à sa volonté, sont les mêmes encore aujourd'hui par les pharisiens et par Hérode. En fait, si les disciples ne comprennent pas l'image du levain que Jésus utilise, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le sens profond de la multiplication des pains. Et là, encore une fois, Jésus exprime son désarroi en envoyant toute une série de 7 questions à ses disciples pour pointer la gravité de leur aveuglement et de leur incapacité à comprendre qui il est. « Ne voyez-vous pas, dit Jésus, ne comprenez-vous pas que je sois le seul capable de satisfaire vos cœurs, de combler vos besoins les plus profonds. » Cet aveuglement des disciples n'est pas nouveau. On reprend quelques chapitres plus tôt, Marc 4, 13. « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment alors comprendrez-vous les autres ?» On avance un peu, Marc chapitre 4, verset 41. « Mais eux, les disciples, furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme que même le vent et le lac lui obéissent ?» Marc 6, 52, « Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. » Marc 7, 17 à 18, « Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous non plus, vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ?» Le diagnostic est à nouveau posé. Les disciples, comme les pharisiens et comme les foules qui suivent Jésus un petit peu plus tôt dans l'évangile de Marc, sont complètement aveugles concernant la véritable identité de Jésus. Ils sont incapables de voir et de comprendre qui il est vraiment. C'est un diagnostic douloureux, mais ô combien réaliste sur l'état de l'être humain en général. Nous sommes tous, par nature, touchés par cette cécité spirituelle. Quelqu'un a dit, une personne spirituellement aveugle ou sourde a un handicap spirituel qui l'empêche de comprendre. Notre cœur est endurci. Notre cœur est profondément rebelle. Il ne veut pas de Dieu. Il ne cherche pas Dieu, il nous est dit ailleurs dans la parole. Il est aveugle et fermé aux choses de Dieu. Ce n'est donc pas la vue de miracles et de manifestations aussi extraordinaires soient-elles qui amèneront les gens à comprendre qui est Jésus et à croire en lui et à se repentir. Et en cela, je suis parfois surpris par la fascination, l'attrait qu'il y a pour beaucoup de personnes, pour toutes les vidéos qui circulent sur Internet, où on assiste de manière spectaculaire à de nombreuses guérisons et des conversions de personnes en masse. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable d'utiliser un miracle pour susciter la foi, mais ce n'est pas ce qui nous est dit, ce qui nous est montré de manière générale dans sa parole. Donc pour ma part, et pour ceux qui me connaissent, avec qui on a déjà eu l'occasion de discuter, je suis particulièrement vigilant par rapport à ces choses-là. Jésus, dans une histoire qu'il donne entre Abraham et le riche et le pas entre Abraham entre le riche et le pauvre qui mendiait devant le portail du riche et puis tous les deux meurent, se retrouvent au ciel et puis le riche se retrouve donc en enfer et il voit le pauvre qui est dans la présence de Dieu et il aimerait trouver un moyen et à un moment donné, il dit, mais c'est terrible ce qui m'arrive ici, ce qui nous arrive ici. Il dit à Abraham, il dit, est-ce que tu ne pourrais pas renvoyer le pauvre, le ressusciter, qu'il aille dire à mes frères qui sont encore sur terre qu'il faut qu'ils changent d'attitude, il faut qu'ils se repentent parce que c'est terrible, ils ne doivent pas vivre ce qui va se passer ici. Qu'est-ce que Abraham leur répond. Abraham répliqua, « S'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. » Devant ce diagnostic posé, quelle est la solution? Quel est le remède à notre aveuglement spirituel profond? À notre incapacité naturelle à croire, à comprendre qui est Jésus. Versets 22 à 26, ils arrivèrent à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mouilla les yeux avec sa salive. Il lui imposa les mains et lui demanda, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit, « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, « Ne rentre pas dans le village. » Une guérison surprenante, n'est-ce pas ? Une guérison accomplie en deux temps. Surprenant parce qu'on peut s'empêcher de se poser la question et de se dire, mais est-ce que ça veut dire que Jésus n'était pas capable de le faire d'une traite, d'un coup ? Si, et il l'a déjà fait par ailleurs. En fait, on suggère, et par rapport à la manière dont le récit est agencé, que Marc fait le choix de placer le récit de cette guérison ici, certainement pour illustrer, pour l'utiliser comme une illustration de l'aveuglement spirituel des disciples et livrer ainsi l'unique remède possible. Seul Jésus est capable de nous guérir de notre cécité. Chaque personne qui se tourne, qui se convertit, qui se repent de ses péchés pour se tourner vers Jésus, est toujours un miracle opéré par Dieu lui-même. Alors je terminerai par trois remarques à propos de ce récit que je veux transformer en trois applications. Si Jésus est le seul capable de nous guérir de notre cécité spirituelle, alors c'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est vers lui que nous devons amener les personnes encore aveugles à propos de Jésus. Comment, puisque Jésus n'est plus présent physiquement sur cette terre? Eh bien, en les exposant à sa parole, la Bible. Amis, famille, enfants, voisins, collègues de boulot, coéquipiers de club n'ont pas besoin de voir un miracle, mais de côtoyer Jésus au travers de sa parole. Et dans sa grâce, Dieu, par sa parole et son esprit, a cette capacité extraordinaire de les guérir de leur cécité, de toucher leur cœur au plus profond, leur cœur endurci, et de leur donner la vue et la vie spirituelle. Pour nos enfants, de manière peut-être plus pratique, de nombreuses possibilités existent pour être exposés à la parole de Dieu. On peut les envoyer dans les camps, on peut bien sûr leur parler de Jésus dans la vie quotidienne. Mais il y a aussi un chouette moyen qui est le culte de famille. Souvent, on peut culpabiliser quand on entend ça, et ce n'est absolument pas mon désir ce matin. Nous n'avons pas, avec Priscille, tenu forcément des cultes de famille de manière toujours régulière. Ce n'est pas le but, mais des fois on se fait aussi, il me semble, une montagne de ce moment, en se disant on n'est peut-être pas capable ou ça va prendre trop de temps. Comment, avec Priscille, nous vivons cela en ce moment? Nous prenons 10 minutes en soirée, après le repas du soir, où on se pose simplement en famille sur le canapé. On lit la Bible, un petit passage de la Bible. On prend un petit moment, si les enfants ont des questions, pour éclaircir peut-être un point ou l'autre de ce qu'on a lu, pour les aider à comprendre. On prie, et puis on chante. Ce n'est pas du tout le moment idéal dans lequel on se projetait quand on a voulu mettre ça avec Priscille, parce que souvent les frangins sont en train de se disputer, ils sont en train de lire une BD du coin d'un œil qui est posé sur le côté, ils viennent avec un jouet pendant ce temps-là, alors qu'on leur a demandé de pas venir avec des jouets. Ce n'est pas toujours facile. La capacité de concentration n'est pas toujours là en fin de journée. Mais peu importe, j'ai envie de dire, au final, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit en journée, prenez un temps pour exposer vos enfants à la parole de Dieu. Dieu est celui qui fait son œuvre dans les cœurs et dans les vies. Et puis pour vos connaissances, avec les personnes qui sont peut-être non-croyantes, qui sont peut-être en recherche, avec qui vous avez peut-être déjà établi une relation de confiance, pourquoi ne pas leur proposer simplement de prendre une heure par semaine à la maison, 45 minutes, pour lire ensemble un évangile et simplement s'exposer au texte et voir avec quelques questions comment ce texte nous parle de Jésus, qui il est. Il y a plein d'outils qui existent pour ça. Il y a les sept signes de Jean, il y a le canevas de la grande histoire, il y a des choses qui existent. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. On peut réfléchir ensemble et je peux vous donner des outils en ce sens-là. Deuxième chose, supplions Jésus d'ouvrir leurs yeux. Il y a la parole, mais il y a aussi et surtout la prière. Si Jésus seul a la possibilité de permettre aux personnes de comprendre qui il est, alors ne cessons pas de le supplier, d'intercéder avec ferveur dans la prière pour celles et ceux qui n'y voient pas encore clair. Prions seuls, prions dans les groupes de maison, prions dans les groupes de croissance, prions en assemblée, prions que Jésus se révèle et opère cette guérison qu'il a déjà réalisée pour moi et pour plusieurs d'entre vous. Et je prie ce matin que le Seigneur renouvelle notre désir et nous redonne une ferveur pour la prière. Enfin, et je termine, patientons, parce que la guérison prend du temps. Juste après ce récit, Jésus va ouvrir les yeux de ses disciples avec cette déclaration de Pierre, « Tu es le Messie ». On le verra la prochaine fois, mais une étape est franchie. Et pourtant, même si les disciples, ça y est, voient un petit peu mieux qu'avant, leur guérison n'est encore que partielle. Parce qu'ils ne vont pas encore saisir pleinement quelle est la mission de Jésus. Leur guérison franchira une nouvelle étape encore lors de sa mort et surtout lors de sa résurrection. Et puis encore une nouvelle étape lors de la venue du Saint-Esprit. Et même là, après la venue du Saint-Esprit, ils vont encore avoir besoin d'apprendre et de comprendre tout un tas de choses. La vie de disciple de Jésus est un cheminement, un processus pendant lequel notre compréhension de qui est Jésus progresse petit à petit. Quelle patience de Jésus envers ses disciples. C'est en tout cas ce que je ressens à la lecture de ce texte. Et du coup, quelle patience de Jésus envers moi et toutes mes incompréhensions. Moi et ma vue partielle, moi et ma vue encore floue sur tellement de choses. Reconnaissant notre dépendance à Jésus pour qu'il nous aide, qu'il continue d'être celui qui nous aide à comprendre toujours plus qui il est. Nous sommes tous et toutes des apprentis sur le chemin de la vie. Nous comprenons certainement aujourd'hui des choses que nous ne comprenions pas il y a encore quelques années. Laissons Dieu nous aider, nous aussi, à cheminer, à grandir. Supplions-le de, quand on est face à sa parole, de nous aider à toujours plus comprendre qui il est et que cette compréhension de qui est Jésus soit ce qui façonne notre propre vie de disciple pour nous qui aspirons à ressembler toujours plus à notre Maître Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le seul capable d'ouvrir les yeux de nos cœurs, capable de nous amener à réaliser et à comprendre que tu es ce bon berger, celui qui est et qui veut et auprès de qui on peut trouver toute la satisfaction, Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin d'un point de vue spirituel, mais tu l'as montré aussi en nourrissant ces foules par ces pains, par ces poissons, que tu es celui qui veut prendre aussi de nos besoins physiques, physiologiques. Alors Seigneur, je te prie pour chacun de nous que nous puissions continuer de grandir et que si ce matin, quelqu'un parmi nous n'a pas encore saisi que tu es ce sauveur, que tu es ce Seigneur, que tu es celui qui a partagé ce pain et ce vin avec tes disciples, qui est monté sur cette croix pour nous permettre de retrouver cette relation avec Dieu, eh bien je te prie que tu ouvre les yeux de ces personnes ce matin. On te remet toutes celles et ceux que nous côtoyons depuis peu ou depuis longtemps, qui sont aussi dans cette situation, que tu sois celui qui ouvre les yeux de leur cœur, peut-être alors qu'on va exposer ta parole, que tu les aides, Seigneur, à comprendre. Et enfin, Seigneur, je te remets nos propres vies, pour nous qui cheminons, qui sommes peut-être disciples depuis peu ou depuis longtemps. Je te prie que tu continues dans cette vie sur cette terre avec toi, Seigneur, à nous amener à toujours mieux comprendre qui tu es et à transformer nos cœurs, à transformer nos vies, comme cela a été dit ce matin, pour que nos vies soient ce joyau précieux, Seigneur, qui reflète ta gloire et qui amène celles et ceux qui nous regardent à te voir aussi au travers de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.